L'actu des Grands Causses.
L'émission du Parc naturel régional. Quel geste plus banal pour nous que celui d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau ? Mais avant d'arriver dans nos chaumières, cette eau ruisselle, s'infiltre, voyage en milieu souterrain, puis refait surface. Sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses, l'une des plus importantes réserves d'eau se trouve dans une zone géologique appelée karst. Une roche calcaire, rongée par l'eau, et qui donne naissance à un réseau de grottes, cavités, rivières souterraines. Ces rivières souterraines alimentent ensuite notre réseau d'eau potable. Pour explorer, connaître et préserver cette ressource, le Parc naturel régional des Grands Causses travaille en étroite collaboration avec le comité départemental de spéléologie. Voyage en milieu karstique avec Jean-Louis Rocher, président du comité départemental de spéléologie, et Laurent Danneville du service eau et assainissement du Parc naturel régional des Grands Causses.
Alors ce milieu karstique, il est très vulnérable en fait, puisque les eaux qui vont s'infiltrer sur le plateau vont rejoindre des réserves souterraines importantes qui sont en général utilisées pour les collectivités pour l'eau potable. Donc il est important en effet de bien connaître ces réseaux karstiques, ces bassins d'alimentation de sources karstiques, pour essayer de protéger au mieux cette réserve en eau qui est utilisée pour l'eau potable.
Alors comment vous étudiez cette eau ? Comment vous procédez pour l'étudier ?
Alors pour étudier cette eau, on essaye de mettre des instruments de mesure, bien sûr, au niveau des sources, pour essayer de connaître les variations de débit. On fait également des mesures de qualité pour connaître la qualité de ces eaux. Et puis par la suite, on mène des opérations de préservation sur ces bassins qui sont très importants, parce qu'en général, ils font plusieurs kilomètres carrés. On a différentes activités, on peut avoir des villages, des maisons éparses, donc il est important que, entre guillemets, tous les effluents soient bien traités pour éviter des dépollutions au niveau de la réserve en eau.
Parce que donc l'eau s'infiltre en surface et crée des réserves d'eau, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Elle s'infiltre, donc les précipitations qui s'infiltrent dans le plateau, donc ces eaux deviennent invisibles. Elles vont alimenter donc un réseau souterrain, des réserves importantes, et elles vont à un moment donné, donc au bout de quelques heures, au bout de quelques mois, voire un an et demi, ressortir et alimenter nos rivières. Elles redeviennent visibles, et à ce moment-là, elles vont rejoindre la mer au bout de quelques jours.
Alors, qui dit cavité dit spéléologie. Jean-Louis Rocher, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité spéléo sur le département ?
L'activité spéléologique sur le département, c'est d'abord ce qu'on envoie beaucoup en été, c'est le milieu professionnel avec les centres de vacances et les guidages professionnels. Bon, ça, c'est l'activité, je dirais, estivale et touristique. Et après, en Aveyron, il y a 8 clubs spéléo qui pratiquent régulièrement l'activité dans l'ensemble des Grands Causses. Grands Causses qui sont partagées entre 4 départements, Aveyron, Lozère, Gard et Hérault. Et donc, il y a beaucoup de clubs spéléo dans l'ensemble de ces 4 départements. Voilà, et l'activité, c'est la visite qu'on appelle de cavité classique, où il y a beaucoup de spéléo qui vont visiter simplement la cavité. Et il y a une partie aussi, recherche de nouvelles cavités, qui occupent une grande partie du temps des clubs locaux en particulier. Voilà, mais...
C'est une chasse au trésor un peu ?
Peut-être pour certains c'est une chasse au trésor peut-être, mais c'est vrai que le rêve de tout spéléologue c'est de trouver la rivière, c'est-à-dire que sur le Causse on voit bien, il n'y a pas d'eau en surface, et je pense que c'est peut-être génétique, on recherche l'eau, et nous spéléologues on est très proche de la nature, très proche du Causse et du massif, et notre envie c'est de savoir ce qu'il y a dessous déjà, globalement, avec ou sans eau d'ailleurs. Et puis trouver la rivière et pouvoir la suivre en fait, au maximum vers la source, oui, c'est un petit peu le rêve de tout spéléologue qui fait de la recherche spéléologique. Oui.
Alors comment vous collaborez, Parc naturel régional des Grands Causses et comité départemental de spéléologie ? Sur quel type de projet vous vous retrouvez ?
Il y a plusieurs projets différents. Comme les spéléologues connaissent bien le terrain, et donc comme ils sont entre autres à la quête de l'eau, il y a une connaissance des résurgences et des sources qui entourent tous les massifs des Grands Causses, une connaissance de terrain, une connaissance des cavités, de leur fonctionnement hydrologique, s'il y a de l'eau, pas d'eau, et ça permet de faire notamment des traçages dans ces cavités et essayer aussi de trouver des cavités bien placés pour essayer de délimiter les bassins d'alimentation des différentes sources. Voilà. Après, il y a aussi des partenariats ponctuels, comme en juin, par exemple, de l'an dernier, sur la dépollution de la veine de la Bitte, sur le Larzac, commune de la Roque-Sainte-Marguerite. Et puis des actions comme par exemple l'inventaire des cavités pour définir les sites de pratique en Aveyron.
Bon, je reviens un petit peu sur ce mot de dépollution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, la dépollution d'une cavité, dans les Rencos, il y a certaines cavités qui ont servi de poubelle à certaines occasions. Heureusement, moins maintenant, à force de sensibilisation. Je pense que la plupart des habitants du Corse comprennent que les gouffres ne sont pas des dépotoirs et que toute la pollution va ressortir un jour ou l'autre dans une des sources de la vallée. Et la pollution, par exemple, à la veine de la Bitte, puisque c'est la dernière qu'on a réalisée, les spéléologues descendent dans la veine qui faisait 50 mètres de profondeur, on remplit tout ça dans des bidons qu'on amène dans une benne et voilà. Ça s'est passé sur un week-end avec une trentaine de spéléos qui se sont investis pendant 2 jours.
D'autres partenariats peut-être ? Est-ce qu'il y en a d'autres remarquables dont vous aimeriez parler ?
Oui, pour compléter, bien sûr, il y a les aspects traçage, parce que c'est vrai que souvent, on ne peut pas injecter depuis la surface, donc les spéléos munis de bidons vont pouvoir injecter le colorant des fois 100 ou 150 mètres en profondeur. Donc ça, c'est la collaboration la plus importante. Mais il y a aussi d'autres collaborations, notamment avec les spéléo-plongeurs, qui nous permettent aussi de récupérer la topographie des réseaux souterrains qu'on ne connaît pas. Donc ça nous permet de les reporter sur des cartes IGN et puis d'avoir des actions de protection plus efficientes. Donc c'est des partenariats qu'on a depuis plusieurs années. Et puis dernièrement, pour quelques spéléos, on donne un peu de colorant justement pour les écoles, pour dans le cadre de projets entre guillemets scientifiques, pour faire découvrir le monde souterrain. Donc les élèves, notamment des élèves de collège, vont pouvoir injecter des colorants dans des cavités, regarder le passage de l'eau souterraine et voir comment fonctionne la source karstique.
L'actu du parc des Grands Causses.
Est-ce qu'au niveau du paysage, le milieu karstique, il est reconnaissable ou c'est vraiment quelque chose de souterrain ?
Alors, le milieu karstique, bien sûr, il y a des formes de surface, il y a des formes souterraines, il y a les deux, hein, c'est un ensemble. En surface, on essaie des zones de dépression, des zones, des reliefs uniformes, parce qu'on a souvent des zones érodées, notamment dans des dolomies, donc c'est ce qu'on a au sud de Millau, par exemple, ou à Montpellier-le-Vieux, hein, ce sont des reliefs uniformes. On peut avoir des fractures, on a des grandes zones de dépression, qu'on appelle des dolines. On peut avoir des pertes, donc ça, c'est des formes plutôt de surface. Et puis en souterrain, le milieu karstique, c'est des fractures, c'est des galeries souterraines, c'est les concrétions, hein, les stalagmites, les stalactites, les draperies, tout ce qu'on connaît comme cortège de concrétions. Et puis après, c'est la rivière souterraine, c'est les résurgences, c'est les trop-pleins. Donc tout ça, ça fait partie du monde karstique.
Et on peut visiter ces cavités ? Est-ce qu'on peut les visiter en grand public ? Ou est-ce qu'il faut être un spéléologue aguerri ?
Alors nous on déconseille très vivement aux gens qui ne sont pas dans des clubs ou qui ne sont pas vraiment spéléos de s'aventurer dans les cavités, parce que je pense que évidemment les professionnels sont là pour faire découvrir la spéléologie, moyen une journée par exemple de découverte, et après les gens qui veulent vraiment, qui s'intéressent vraiment à ce milieu, on les conseille très vivement de rentrer dans les clubs locaux et prendre contact vraiment avec les spéléologues qui organisent de temps en temps, dans l'année d'ailleurs, des sorties qu'on appelle dites initiations. Mais c'est vrai que donc on déconseille très fortement, à n'importe qui, de s'aventurer comme ça sous terre sans connaissance du milieu.
Et alors quelques sites remarquables peut-être dans le département à voir ?
Alors des sites remarquables dans le département, il y a des grandes cavités qui attirent les spéléologues un petit peu nationaux, voire internationaux. Hein, des cavités qui dépassent 300 à 400 mètres de profondeur, qui dépassent plusieurs dizaines, voire plus de 10 à 15 kilomètres. Alors pour citer, disons, les gouffres importants, mais ça ne voudra pas dire grand-chose, à tout le monde. C'est vraiment un milieu de spéléologues. J'ai créé la veine de Pêche-Nègre, la veine de la Tride, la veine de la Cheminée. Ce sont des noms qui évoquent beaucoup de choses aux spéléologues, pas beaucoup aux autres. Et après, il y a eu des découvertes importantes. Bon, on a parlé notamment de la veine noire. Il y a eu beaucoup de découvertes importantes ces dernières années.
Alors justement, pour que le grand public connaisse un peu mieux la spéléo, on peut dire un mot sur le congrès Millau 2013 ?
Alors bien évidemment, pour nous, cette opportunité de fêter les 50 ans de la création de la Fédération française de spéléologie, donc qui s'est créée en 1963 à Millau, ben, c'était l'occasion de faire revoir au grand public toutes les facettes que recoupe l'activité spéléologique. De la recherche, en passant par l'archéologie, même la spéléologie minière aussi. Très peu ici en Aveyron, mais dans des départements où il y a peu de cavités, il y a une spéléologie minière qui est très développée, et qui met à jour d'ailleurs des sites archéologiques dans des anciennes mines. Et toutes ces facettes-là, ben, on va essayer, par le biais de conférences, par le biais d'expositions, de faire en voir un petit peu tout ce que touche la spéléologie.
Et si on veut découvrir l'univers souterrain sans descendre, on peut se rendre à une exposition, l'exposition à l'aire de Broquet-Joules ?
Ah ben voilà, alors évidemment, on ne peut que conseiller d'aller à l'aire de Broquet-Joules, voir cette magnifique fresque où est représentée une cavité fictive avec tous les éléments que l'on peut trouver à l'intérieur de cette cavité et accompagnée de photos 3D, vraiment extraordinaire.
L'exposition Spéléorama est visible à l'aire de Broquet-Joules jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais ne loupez pas les nombreuses conférences et expositions organisées tout au long du mois de mai. Quelques thèmes pour vous donner l'eau à la bouche, le monde fabulé des chauves-souris, les grottes bâties et leur utilisation, la grotte Chauvet, les glaciers de l'Himalaya et attention, attention, une tentative de record du monde de la plus longue tyrolienne sur corde. 2,1 km pour être précis. Elle sera installée entre le 10 et 18 mai. Suspense et surprise. Merci à Jean-Louis Rocher, président du comité départemental de spéléologie de l'Aveyron, et à Laurent Danneville, du service eau et assainissement du parc naturel régional des Grands Causses.
L'actu du Parc des Grands Causses, une émission réalisée par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Retrouvez l'actu du Parc des Grands Causses tous les samedis dans le Midi Libre.